Europe 1. Écoutez le monde changer.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Eh bien nous voilà, bien le bonjour les amis, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, des champs à la banquette des restos, c'est le chemin que nous allons emprunter ce samedi. On va faire du pain au levain, nous allons faire le point aussi sur la réouverture des restaurants à Paris et en région bien entendu. L'acteur Guillaume de Tonquédec viendra casser la croûte avec nous sur les coups de midi. Mais en attendant, chers auditeurs, voici mes bons vivants du jour. Il enchaîne les services gagnants depuis le début de la semaine dans son restaurant parisien. C'est Yves Candebordes. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent.
Depuis la réouverture des restaurants, lui, il a retrouvé sa lecture préférée, la carte des vins. Mm-hmm. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bah, même la carte tout court, figurez-vous.
Oui, c'est vrai que ça fait du bien.
Hein. Bonjour les amis.
Marion Sauveur nous rejoindra pour le journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud a une belle adresse à nous recommander. Et on en a pas mal des belles adresses. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Et dites donc les amis, au fait, nous sommes le 20 juin. C'est l'été. Vous êtes en bras de chemise.
Pas complètement, Yves.
Il est un peu frileux, Yves. Donc certains fruits et légumes nous l'annoncent sur les marchés. C'est déjà l'été, on l'a vu. Quel est votre goût de la semaine à propos, les amis? On va commencer par vous, Olivier Pouls.
Mais alors moi, c'est pas ni un fruit ni un légume, et je sais pas si cette saison d'ailleurs. Ah. C'est un cadeau de mon boucher que je suis allé voir cette semaine. Et avant de repartir, il me dit dis donc, j'ai un petit truc pour toi. Il me tend un paquet. Dedans, un os à moelle.
Oh, c'est beau.
J'adore ça.
Ça.
Alors vous savez, un long, probablement le tibia. Coupé en deux, mais pas dans le sens de la longueur, mis au four, un petit peu de thym, du gros sel, du pain grillé, j'ai étalé ça là-dessus, le bonheur.
C'est comme ça que je l'aime, effectivement.
Le bonheur.
C'est pas la même texture, je trouve, quand il est comme ça coupé en deux dans la longueur, parce qu'il grille plus au four, Yves.
Oui, totalement, on arrive à avoir une texture de cuisson parfaite, étant donné que c'est assez délicat, et surtout c'est relativement fin. Et après, ce qui est marrant, c'est déposer du croustillant dessus, même des petites amandes, des croutons, voir un peu de petits pois, de twister entre le végétal et l'os à moelle, c'est toujours quelque chose qui est assez pertinent.
Twistons. Quel est votre goût de la semaine, Yves?
Alors moi, c'est un goût de la semaine qui est vraiment de saison, c'est les amandes. Les amandes fraîches, on trouve maintenant depuis le début mai, on les trouve sur nos étals. Et c'est un produit que j'adore. Alors j'adore le manger nature, à l'apéritif, accompagné avec un doigt de Porto.
Ah, c'est bien ça.
Amandes fraîches, Porto. C'est un très joli mariage.
Avec la cerise, ça marche bien aussi. Hein,
aussi
avec une petite poêlée de cerise qu'on pourrait déglacer avec du Porto et avec vos amandes fraîches. C'est une belle idée, ça. Mon goût de la semaine, moi, c'est celui de la courgette. Des courgettes que j'ai récoltées en Dordogne à la Bruyère Kiri. C'est une petite exploitation tenue par un jeune couple. Ils s'appellent Théo et Marjolaine. Ils travaillent en bio. Ils font un super boulot sur des terres sablonneuses de Dordogne. Et j'ai récolté ces courgettes avec eux. Et j'en ai fait une tarte fine, inspiration Yves Candebordes.
Vous pourriez mettre des amandes dessus, d'ailleurs.
Exactement. Je vous rappelle la tarte fine d'Yves Candebordes, hein, une belle pâte feuilletée que vous faites cuire au four 20 minutes entre deux plaques.
Entre deux plaques,
très important. Par-dessus, j'ai étalé un joli chèvre frais de la région, moi, et j'ai taillé mes courgettes en spaghetti que j'ai assoupli avec de l'huile d'olive et du citron. Et c'est une tarte qui se mange en entrée. Et voilà, je customise votre tarte en permanence.
Ouais, mais c'est une base de pâte feuilletée. Alors, l'important, alors, faut le redire, il faut que la pâte feuilletée soit bien cuite.
Bien cuite.
C'est indispensable.
Allez, les amis, direction le marché de la Méno maintenant à Strasbourg pour prendre la température des prix de vente. Quel prix, tiens, êtes-vous prêt à payer pour acheter des fruits et légumes français? Vos réponses au micro d'Arthur Elbaché, notre correspondant dans l'Est de la France.
Deux salades. Oh non, une feuille de chêne verte. J'ai l'intention d'acheter une toute petite poignée de haricots verts parce que c'est trop cher autrement. Et c'est vraiment pour faire un bon repas. C'est vraiment une petite folie.
Et une botte de radis pendant que vous êtes là-bas?
On n'a jamais vu des cerises à 10 euros. Et là, regardez, les abricots 3,50 euros. Tout a augmenté. Je comprends parce que là, vous avez un parfum, vous avez un goût. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être dans la terre de France qui a un parfum où on laisse le fruit mûrir ou je ne sais pas. Et c'est pour ça que bon, c'est pas grave si c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup.
Ensuite, je vais prendre...
Vous voulez donner ?
Oui, 4 courgettes.
Ça m'agace quand j'entends à la télé les gens dire « c'est cher, ça a augmenté ». Si les gens veulent de la primeur, comme on dit, ben, c'est normal, ça se paye.
3-4 tomates, pas plus.
C'est le bon sens, madame, vous avez raison. Tiens, j'en profite au passage pour rappeler quand même qu'aujourd'hui, on consacre 14% de notre budget à l'alimentation. il y a 30 ans, c'était 36% quand même. Donc c'est vrai qu'on veut toujours payer les choses à moindre coût, ce qui est normal aussi parce qu'il y a de gros problèmes de pouvoir d'achat, mais il faut payer les choses au juste prix. Au-delà des conséquences du Covid, Olivier, les prix s'expliquent aussi par le démarrage de la saison. Et puis, pendant le Covid, on a acheté français. On a vu qu'en avril, il y avait une augmentation de 12% du prix des fruits et légumes.
Hein. Oui, il y a plusieurs raisons. Le transport, par exemple, a coûté plus cher. Les produits français, on sait, coûtent un petit peu plus cher que les produits qu'on peut trouver en Espagne, notamment. Mais franchement, moi, je préfère mettre un petit peu plus d'argent et savoir que ça va à des producteurs français qui sont près de chez moi, plutôt que de payer des producteurs espagnols qui souvent ne fournissent pas une qualité irréprochable.
On en revient toujours à ça, Yves Candebord, payer les choses au juste prix.
Oui, le juste prix, envie de vous dire, Laurent, c'est tout simplement là, c'est le prix qui va permettre au producteur de vivre décemment de son métier et qui va lui permettre de faire un produit qui va respecter aussi bien l'environnement que nous respecter.
Les courgettes, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, elles sont à 2,40 € la courgette normale d'agriculture conventionnelle made in France. Hein. Les courgettes bio dont je vous parlais, récoltées avec mon couple d'artisans en Dordogne, elles sont un peu plus chères, forcément, elles sont à 3,50 €, ouais, parce que le bio demande plus de main-d'œuvre.
C'est plus cher, Laurent, certes, mais quand vous le ramenez à la portion dans l'assiette,
exactement.
Ça devient vraiment... Alors, c'est les centimes, important aussi. Mais il n'y a pas une grosse différence.
Mais je suis d'accord. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de grandes quantités. On peut se faire plaisir parfois, comme le disait la dame, avec une petite poignée d'haricots verts.
Mais vous savez, tout le monde veut être rémunéré au juste prix. Pourquoi les paysans n'auraient pas le droit, eux aussi, de l'être?
Eh bien, vous avez bien raison. Tiens, passez-moi le pain, s'il vous plaît.
Ah ben, je vous en prie.
Vous avez été nombreux à faire votre pain durant le confinement. Si vous avez envie de faire un bon pain artisanal, restez avec nous. On vous emmène dans le fournil d'un puriste de la mie, les copains. Ce sera juste après ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Fabriquer son pain, mettre les mains dans la pâte, vous avez été nombreux hein, durant le confinement à jouer au boulanger. Alors c'est vrai que ça évitait les sorties, ça faisait du bien au moral de faire quelque chose de ses mains aussi. Alors ce samedi, on va casser la croûte d'un pain façonné par un artisan boulanger. Dans les règles de l'art, c'est tout ce qu'on aime, un four à bois et un levain naturel. Vive le levain et le Lorrain aussi, Olivier.
Ouais. Ben, ça change tout, le levain naturel, puisque le levain naturel est issu directement de la farine. Donc, on peut dire qu'il est le plus proche du pain qui soit, alors que quand on utilise des levures industrielles ou même des levures de boulanger, c'est un peu comme dans le vin. Hein. Vous avez les levures indigènes et les levures exogènes. Et quand on amène des levures extérieures, elles ne travaillent pas de la même manière. Et puis surtout, elles n'ont pas le même goût. Le goût du pain au levain naturel, il est unique.
Et oui, il y a une belle acidité. Alors c'est vrai que Yves, depuis les années 2000, on assiste à un retour des paysans boulangers. Il y en a partout en France. Je pense à Jean-François Berthelot et ses variétés anciennes de blé. Vous savez, à la ferme du Roc Port-Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne. Il y a Alex Croquet, dans le Nord.
Alex Croquet, qui est un fabuleux boulanger, qui fait un travail assez exceptionnel autour des farines. Et lui aussi autour de l'eau.
Et de l'eau.
Parce que c'est important, parce qu'il y a deux matières premières, comme dans le pain, c'est la farine et l'eau. Et les deux sont primordiales pour un bon pain.
De l'eau toujours en mouvement chez Alex Croquet pour qu'elle apporte justement une force et de la vie à la baguette.
Et quand on fait son pain, on ne prend pas de l'eau du robinet qui souvent sent un peu la javel. Donc on prend évidemment l'eau la plus pure possible.
Il y a Roland Feuillasse à Cucugnan et les farines de son moulin. Il y a même une école maintenant de boulangerie spéciale pain au levain qui est montée par Chambellan dans les Alpes de Haute-Provence.
Et Panero puis, Clandestino de Thierry Delarbre
oui,
à Paris.
Oui, il y en a plein. Et il y a Hervé Normand tiens, aussi qui est un artisan boulanger qui a construit son fournil à bois Truel dans l'heure. Il ne jure que par le pain au levain naturel et nous en parle, tiens, au micro de Lucille Escourou, notre rédactrice en chef. Elle a suivi son pain paysan prêt à être enfourné. On y va, baissez la tête, on rentre dans le four.
Donc là, j'enfourne le paysan à l'aide d'une pelle que mon cousin m'a donnée, mon cousin de Mont-de-Marsan. Donc elle a certainement plein d'histoires, les vieilles. La législation autorise aux boulangers, aux meuniers essentiellement, de mettre une série d'adjuvants qui permettent d'obtenir une baguette toujours de la même couleur, de la même texture. C'était de l'optimisation pour fabriquer plus vite. Ici, on essaye de travailler le brut, de simplifier au maximum le processus. Il y a un levain de seigle complet, qui est un mélange de farine et d'eau fermentée. On rajoute le sel et c'est tout.
Et c'est tout, voilà, rien d'autre, pas d'additifs et on n'est pas dans le mix, ce fameux mélange de farine et d'additifs. On autorise jusqu'à 14 additifs hein, dans les mix et beaucoup de boulangers ont recours à ces mélanges. Et au passage, c'est ces mélanges de mix qui sont enrichis en gluten et qui ont rendu certaines personnes intolérantes au gluten.
Ouais, totalement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intolérants au gluten et c'est dû à ça. Alors parce que si vous travaillez avec un levain naturel, le gluten est déjà prédigéré par le levain, est-ce qu'il vous permet, là, Laurent, de le digérer sans aucun problème.
C'est plus digeste, un pain au levain.
Plus digeste. Hein,
on est d'accord.
Laurent, après, il faut parler du goût. Voilà. Moi, le pain au levain, voilà, c'est une complexité. C'est une complexité aromatique. Alors, je suis amoureux de la baguette bien faite. J'aime ça, je suis français, j'aime la baguette. Mais le pain au levain, c'est vraiment très subtil. C'est de la cuisine. Il y a des arômes vraiment tertiaires qui apparaissent, des arômes florals, c'est vraiment très...
Des arômes de miel parfois.
Et ils se conservent longtemps en plus. Alors on va s'en payer une bonne tranche, tiens. Hervé Normand, qu'on vient d'entendre, nous invite à regarder la mie de plus près aussi. Regardons la mie.
Donc là, vous avez une miche, c'est un pain de campagne. Vous l'entendez craquer, il sort du four. La mie, en général, est un petit peu serrée. La différence entre un pain au levain et un pain plus conventionnel fait avec de la levure, c'est des alvéoles larges et puis des petites alvéoles. C'est pas du tout la même façon de se développer. C'est un pain légèrement acide. C'est aussi cette acidité qui permet au pain au levain de se conserver plus longtemps. Donc comme le yaourt ou comme la choucroute. La choucroute, c'est quand même quelque chose qui se conserve très longtemps.
Et oui, la grande famille des produits fermentés, exactement, qui font du bien à notre microbiote aussi. Enfin, ça dépend chacun de son microbiote, mais en général, ça fait du bien. Alors, on va vous dire la vérité, tiens. On a ce pain qui est avec nous en studio, un pain au levain. Lucie l'a rencontré Hervé Normand il y a 8 jours. Vous vous rendez compte? 8 jours. Hein. Mmh. Eh bien, le pain, alors, on ne va pas le manger frais, évidemment, mais on l'a grillé. Et franchement, il est top. Il est sublime.
Il est top parce qu'en plus, Laurent, je pense que vous le mangez 8 jours après, 10 jours après, vous n'aurez jamais les mêmes arômes. Il est en vie.
Et alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pain au levain, quand on le grille, on perd un peu de son acidité. Quand
c'est
on
vrai.
A des pains au levain qui sont très frais, qui sont
parfois
un peu acides, le fait de le passer au grill va casser cette acidité.
Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose que fait Hervé Normand. Je vous assure que je ne connaissais pas ça, moi. C'est du pain liquide. On en a là, en studio, ici, sur Europe 1, à la table des bons vivants. À boire, regardez, vous en avez, on vous en a mis. Il fait ça avec quoi? Tout simplement avec les invendus. Ça. Il mixe les invendus, il en fait une chapelure, il met de l'eau, du levain cru, et ça fait une boisson fermentée, un petit peu comme le kombucha, vous savez, qui est fait avec du thé vert.
Ouais, tout à fait.
Alors, on va goûter.
Mais écoutez, c'est...
Ah oui.
C'est assez spécial.
Et il a du retour quand même. Quand on
ouais, mais c'est bon. C'est vraiment bon.
Oui, c'est bon.
Frais.
Oui, mais fraîcheur. L'attaque est spéciale quand
L'attaque
même.
L'attaque est spéciale. Il y a une vraie fraîcheur. Il y a une belle amertume aussi de fin de palais. C'est étonnant. Et à l'aveugle, avant de dire que c'est...
C'est du pain, c'est introuvable.
C'est vrai que c'est introuvable. Et Lucille, qui travaille avec nous, le déguste avec du sirop de framboise et l'accord est très bien. Et franchement, ça marche. Il est bien frais là aussi. C'est ça qui est agréable.
Je suis persuadé que pour la digestion, c'est très très bon.
Alors voilà, il s'appelle Hervé Normand et on vous mettra les références du Fournil des Bois, son restaurant, un passionné comme de nombreux boulangers passionnés qu'on salue. C'est vrai qu'en région, on a parfois du mal à trouver du bon pain. Hein. Il y a une clientèle captive, comme on dit, et donc du coup, on fait des baguettes sans faire d'efforts, mais on fait aussi du bon pain un peu partout en
France. Et puis là, on ne rompt pas le pain, on le boit. Alors là,
vous voyez, je pense qu'il y a une vraie révolution dans le pain depuis quelques années quand même.
Depuis lundi, les restaurants sont censés rouvrir, vraiment tous. Eh bien, c'est pas si sûr. On en parle juste après le journal de Marion Sauveur. À tout de suite.
La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous les amis, il est 11h20, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et ça y est, elle est de retour avec son journal de la cuisine brûlant où il va être question de la réouverture complète des restaurants sur tout le territoire. C'est Marion Sauveur, enfin avec nous en studio. Bonjour Marion.
Bonjour à
vous
tous.
Pas
bonjour
connu. Marion. Bonjour Marion.
Ravi de vous retrouver.
Et ben moi aussi,
et
très heureuse.
En fait, les retrouvailles avec du pain liquide. C'est pas tout le monde qui
c'est
vous
délicieux.
Accueille comme ça quand même.
Je ne connaissais pas. C'est
ça
une
vous a
vraie
plu
découverte.
C'est
délicieux.
C'est vrai que l'attaque est un peu particulière, mais c'est très très bon,
c'est bon
et c'est très digeste.
C'est très long en bouche. En
oui, très long en bouche, exactement.
Voici votre journal de la cuisine, Marion. La consommation de poissons en hausse, la réouverture des restaurants et les soignants invités par les chefs. Voilà le menu. Notre appétence pour les produits de la mer n'a jamais été aussi grande, dites-nous.
Oui, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation mondiale a bondi de 122% par rapport à 1990. Chaque habitant de la planète mange en moyenne 20,5 kg de poissons par an. D'ici 2030, le chiffre devrait augmenter encore d'un kilo. Aujourd'hui, 52% du poisson que nous consommons provient de l'aquaculture qui a progressé de 527% en 28 ans. On peut malheureusement remercier la Chine et son tilapia, ainsi que la Norvège avec son saumon.
Ah oui, c'est le tilapia, c'est honteux, c'est un poisson dégoûtant. Mais il y a de beaux élevages hein, quand même, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai qu'il y a des trucs insupportables. Depuis lundi, tous les restaurants peuvent officiellement rouvrir.
Hormis à Mayotte et en Guyane, Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche dernier, les règles de distanciation sociale sont maintenues. contenu. Les clients doivent être espacés d'un mètre minimum, pas de tablée de plus de 10 personnes et il est toujours obligatoire de porter un masque lorsque vous vous déplacez au restaurant. Si vous ne respectez pas cette règle, c'est le restaurateur qui risque une amende. On continue de parler de la restauration et de son avenir avec vous, Laurent, dans quelques instants.
Absolument. Après nous avoir soignés, ça y est, on peut le dire, à table les soignants.
C'est le nom d'une initiative lancée par le chef 3 étoiles Arnaud Douquel. Il veut continuer de remercier les soignants qui se sont investis durant la crise sanitaire en les invitant à table. 40 autres chefs se sont joints au mouvement.
C'est beau.
Et vous aussi, vous pouvez contribuer en dégustant un menu spécial dans l'une des 41 adresses participantes. Une partie de votre addition financera les repas des soignants.
Et bon, on vous mettra sur europe1.fr les restaurateurs participants à cette initiative. Merci Marion Sauveur.
Avec grand plaisir.
Et à la semaine prochaine. Alors depuis lundi, tous les restaurants de France ont le droit d'accueillir leurs clients en terrasse comme en salle. Une réouverture très attendue après 3 mois d'arrêt, c'est historique. Hein. Mais c'est loin d'être rose pour la profession. Comment vont nos restaurateurs? Quel avenir pour la restauration? Comment réinventer le métier si on doit le réinventer? Eh bien, on va en débattre avec vous, Olivier Pouls et Yves Condebordes. Tiens, Yves, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, on en parlait. Les restaurants parisiens ont rouvert avec une semaine d'avance. C'était votre souhait avec de nombreux chefs. Vous avez été entendu, alors, ça veut dire?
Oui, on a été entendu. Voilà, c'était là, de donner la possibilité à qui voulait ouvrir, qui pouvait ouvrir, de les laisser ouvrir, de façon à commencer à retrouver, je dirais, la vie, le sourire.
Comment ça se passe pour vous? Vous avez le sourire?
On a le sourire, c'est surtout les clients qui ont le sourire. La belle satisfaction, c'est cet engouement que le citoyen a pour son restaurant, pour son café, pour son bar, pour sa crêperie.
On y est attaché.
On y est attaché. Et Laurent, ça a été très émouvant parce que les gens nous remercient. Alors nous, on les remercie d'être là, mais c'est eux qui nous disent non, merci.
Vous avez raison, il y a une émotion. Je viens, pour tout vous dire, moi, je fais des allers-retours entre la Dordogne et Paris en ce moment. Et donc, je suis parti presque 10 jours sans voir les terrasses parisiennes. Et de revoir les terrasses qui vivent comme ça dans Paris et les gens qui sont... Il y a une banane collective, effectivement.
Voilà, il y a une banane collective, il y a un dynamisme positif. Et ça fait du bien de voir les gens revivre un peu normalement, retrouver du plaisir.
Mais c'est une petite banane quand même, parce que d'abord, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas encore ouvert leurs portes, notamment les restaurants gastronomiques qui font face à une absence de clientèle et notamment de touristes.
Ouais, ils sont dépendants des étrangers.
Eux, pour l'instant, sont fermés. Et puis moi, je me suis pas mal baladé aussi cette semaine à Paris et c'est un peu mitigé. C'est-à-dire que oui, de temps en temps, il y a du monde, les terrasses vivent et puis il y a les services où il ne se passe rien. Il y a encore pas mal de gens, je pense, qui soit ont peur, soit, il faut bien le dire, font quand même attention à leurs finances parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Hein.
Non mais c'est le mot, c'est mitigé. On a fait un sondage aussi sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants sur la page Europe 1. On a posé la question suivante. Êtes-vous retourné au restaurant depuis la réouverture? 58% n'y sont pas encore retournés
c'est
à
beaucoup,
ce jour.
Hein.
C'est beaucoup. Hein. Et 42% y sont allés au moins une fois, si ce n'est plus. Et il y a un commentaire de Michel, qui est un de nos auditeurs, qui dit « Il faut retourner au restaurant et soutenir nos restaurateurs. Sinon, qu'est-ce qui se passera? On aura moins de choix et ce sera majoritairement des grandes chaînes qui vont s'installer. » C'est
pas
vrai
faux.
Que c'est un des dangers, ça aussi.
C'est
hein.
pas faux.
Oui, c'est vrai que c'est un danger parce que le petit artisan voilà, qui a un petit restaurant, bien souvent, se retrouve un peu en difficulté avec les 2 mois de confinement qu'on vient de passer. Et le soutien du client va être primordial pour passer, je dirais, cette étape sans trop de difficultés, en espérant qu'il n'y aura pas trop de casse humaine et financière.
Il faut que tout le monde joue le jeu hein, au niveau de la distanciation physique et du port du masque, effectivement. On le voit, effectivement, les serveurs. Alors moi, j'étais, je vous dis encore, en Dordogne, je suis dans un restaurant qui s'appelle L'Imparfait. C'était nickel pour le coup, c'était parfait parce qu'il porte mal son nom, le restaurant. Tout le monde avait le masque avec la distance entre les tables. Et je vois qu'à Paris, c'est un peu plus olé-olé
quand
même.
Je ne veux pas cafeter, mais c'est quand même effectivement parfois un peu du grand n'importe quoi.
Je pense que toute la restauration parisienne applique les règles. Voilà. Je pense que c'est l'engouement, voilà, l'engouement du client. Le client est heureux d'être là.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il a tendance des fois à oublier ces règles-là.
Mais nous, quand même nous clients, bien. N'oublions pas qu'on doit porter le masque effectivement à l'intérieur d'un restaurant quand on se déplace pour aller aux toilettes ou pour aller voir quelqu'un ailleurs ou j'en sais rien, ou téléphoner, mais en tout cas, faut respecter ça quand même.
Parce que sinon, c'est le restaurateur qui paye.
Et en plus,
rappelons-le.
Une réouverture totale donc, mais c'est pas gagné pour le secteur de la restauration. On continue d'en parler dans un instant, on va parler de l'avenir aussi.
On passe à table sur Europe 1.
C'est très fin, ça se mange sans fin.
Laurent Mariotte.
C'est très fin, ça se mange sans fin. Bon, on espère, oui, c'est justement pourquoi on a envie d'aller au restaurant, pour manger de bonnes choses, bien assaisonnées, bien cuites, avec une belle ambiance. Alors au fait, comment vont nos restaurateurs? Quel avenir pour la restauration? Comment réinventer le métier? Alors malgré tout, il y a les chefs hein, qui gardent le moral, coûte que coûte, et qui le font savoir, comme Guy Savoie, Olivier.
Oui, qui a créé un dessert, la pêche, la patate. Tiens, alors c'est une association assez improbable d'ailleurs, de pêche et de pommes de terre. J'ai pas goûté. Hein.
Ah, il faut oser.
J'en ai entendu parler. Bon, alors, c'est une pêche qui est prise dans une gelée. Il y a une pomme de terre croustillante par-dessus. J'aimerais bien goûter, mais je peux pas vous dire si c'est bon. Mais en tout cas,
c'est
lui, il a la pêche et la patate.
C'est du Guy Savoie, je suis pas trop inquiet quand même. Hein. Yves Cordebordes, sans aller jusqu'au message dans le plat, est-ce que votre cuisine post-confinement a changé?
En changer, j'ai envie de vous dire non. Je mettrai toujours mon sel, mon poivre et mon piment d'Espelette. Ça, c'est sûr.
On espère.
Non, mais peut-être par rapport au produit. Voilà, c'est peut-être. Je m'efface de plus en plus vis-à-vis du produit parce que je pense qu'il faut mettre en valeur les producteurs qui les préparent. Donc, on essaie en permanence de se dire on a des jolis produits, on va bien les cuisiner, les déposer dans l'assiette et les laisser vivre.
Mais vous nous l'avez dit à ce micro, hein, il y a quelques temps, vous avez profité du confinement, bah, comme tout le monde, pour se retrouver à la maison et faire une cuisine du quotidien. Et vous avez dit, c'est vrai, eh bien, qu'on privilégie peut-être parfois plus le goût à la maison que dans certaines mises en place au restaurant où, du coup, on est dans une cuisine un peu plus sophistiquée, dans une cuisine de dressage.
Oui, bah, de cuisine de dressage aussi, souvent une cuisine aussi de personnalité. Le client vient à nous. Et il a envie de nous croquer, il a envie un peu de croquer notre réflexion culinaire. Et on se rend compte que peut-être que cette réflexion culinaire tue peut-être un peu le goût. Certes, on peut raconter une histoire, on va compter quelque chose dans l'assiette, mais l'essentiel quand on fait un petit pois, Laurent, c'est quoi? C'est que ça sente le petit pois.
Eh bien voilà, exactement. Tous les restaurants ne sont pas égaux devant la crise. Hein. Beaucoup de chefs n'ont tout simplement plus les moyens de s'exprimer, Olivier. Donc on se fait le porte-parole de quelques indépendants ce matin.
Bah oui, eux n'ont pas voix au chapitre. Ils sont dans de grandes difficultés pour leur syndicat. On parle d'à peu près de 17% déjà d'entreprises qui sont incapables d'ouvrir. On en attend d'autres dans les temps qui viennent. Et puis moi, je voudrais aussi avoir une petite pensée, parce qu'on parle beaucoup des chefs, mais dans un restaurant, il y a des plongeurs, il y a des serveurs, il y a parfois un sommelier, parfois un voiturier, il y a des petites mains, il y a des commis, et tous ces gens-là sont aussi sur le bord de la route et on n'en parle pas beaucoup.
1 million d'emplois, la restauration. Bah tiens, on va en parler tout de suite. Je voudrais aussi qu'on parle de l'événementiel et des traiteurs. C'est une catastrophe pour les traiteurs. Les traiteurs, c'est en ce moment normalement qui font leur beurre, c'est le cas de le dire, et qui travaillent avec les mariages, les baptêmes et les cérémonies. Il n'y a rien.
Oui, là c'est vrai que c'est vraiment, je dirais, la partie de notre métier qui est le plus touchée, qui est touchée vraiment. C'est très, très difficile pour eux parce que ça va durer. Bon, il y a l'été qui va passer, donc même tout ce qui est événementiel ne va pas exister. En septembre, octobre, on sait très bien que les grandes entreprises ne vont peut-être pas privilégier c'est l'événement ou le côté festif. Donc, ils se retrouvent vraiment en grosse difficulté. Et comme le disait Olivier, il y a aussi tous ces extras. Il y a quand même un monde professionnel qui tourne autour de ça. Qui est en grosse difficulté.
Et ils vont aller manifester, je pense qu'il va falloir les entendre aussi. Je crois que la manifestation, c'est les 23 et 24 juin, pour faire entendre leur voix. C'est vrai qu'en ce moment, même si les mariages ont repris, les grandes fêtes sont pour l'instant à l'arrêt.
Alors, il y a un syndicat que je voudrais, c'est pas un syndicat, mais c'est quand même, le collectif des permittents de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel qui se mobilise et qui appelle une manifestation, justement, pour mobiliser les forces vives. C'est vrai que c'est 1 million d'emplois, la restauration, mais n'oublions pas tout l'événementiel qui gravite autour de ces métiers. Et on voit là aussi les restaurateurs qui se réinventent et qui, parfois, font des choses assez délirantes pour faire revenir les clients au restaurant. Je pense à Alain Ducasse avec le restaurant à l'art, Olivier.
Oui, qui, lui, veut rassurer, évidemment, les clients et qui a fait beaucoup d'investissements, notamment pour la sécurité des gens. Mais est-ce que cela va suffire? J'en sais rien. Ce que je pense, c'est qu'il faut aussi, et notamment pour ces grands chefs, on parlait de Guy Savoie, d'Alain Ducasse, qui sont ultra dépendants des touristes et qui sont pour l'instant pas là, il va falloir se réinventer. Et pourquoi pas proposer autre chose? Moi, j'ai envie de leur dire chiche les grands chefs, vous qui avez 2-3 étoiles, proposez un repas à 100 € pour faire venir dans vos restaurants, même moi si possible. Enfin bon, il faut être conscient qu'il y a quand même des coûts de fonctionnement qui sont très lourds pour ces maisons. Hein.
Mais au déjeuner, on peut manger dans ces restaurants.
Au déjeuner, peut-être pas. Pourquoi pas pour 50?
On l'a entendu plein de fois, on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux non plus. Il faudrait quand même remettre tout au centre de l'assiette. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas allé trop loin justement dans ce luxe qui est magnifique, qui représente la grande gastronomie française? Revenons peut-être à des choses très simples. Quand j'entends parler qu'il faut se réinventer tous, mais moi j'ai pas envie de me réinventer, j'ai juste envie d'être moi-même. Alors redevenons peut-être nous-mêmes et allons à l'essentiel. C'est qu'une belle assiette dans une belle ambiance.
Un peu plus de modestie parfois.
C'est ça, c'est vrai que le chic dans les assiettes, on sait qu'on est dans une cuisine très brute, une cuisine d'auteur, comme on dit aujourd'hui, on vient pour déguster la personnalité d'un chef cuisinier. Mais c'est vrai qu'on a envie de simplicité aussi quand on va au restaurant. Et voilà, il y a de belles initiatives quand même. Hein, Yves Candebord, je pense à des mamies, ça s'appelle
Mamie Restaurant. Mais je trouve que c'est génial parce qu'on est en train de se réinventer de façon très simple en fin de compte. Ils sont en train de recréer systématiquement selon le jour de la semaine. Voilà, ils font des animations années 70, années 80, années 90. Le client vient, le client est présent, il passe un moment inoubliable, il est heureux, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire revenir les clients au restaurant.
Et il y a des régions qui souffrent à cause du manque de touristes, les étrangers ne sont pas là, et certains touristes français ne se déplacent pas à l'intérieur du pays. Ce sont les régions qui ont énormément souffert du Covid, c'est le Grand Est, c'est Paris, où les restaurants souffrent aussi malgré tout, même si on parle de bonnes nouvelles ce matin, et la Corse à cause de problèmes de voyage.
Olivier. Et puis, il y a aussi le click and collect qui s'est développé, la restauration emportée, qui s'est développée pendant le Covid, qui marche toujours. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont sauvé leur entreprise grâce à ça. Donc, c'est aussi une manière d'aller les supporter, avec peut-être un effet un peu pervers, c'est que les gens se sont tellement habitués à aller acheter des plats emportés qui sont moins chers, à acheter leur bouteille de vin chez le caviste et avoir des additions plus légères.
Alors, on va continuer à vous donner des nouvelles de nos restaurateurs. D'ici 15 jours, nous ferons un dossier complet spécial table d'été en France, de la ferme auberge au restaurant gastronomique. Il y en aura pour tout le monde. Ne bougez pas, on va jouer avec les mots de la cuisine juste après ça. Et Guillaume de Tonquédec, notre invité, se rapproche et tous au resto.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Eh bien, nous voilà de retour. Alors, vous le savez, chaque samedi, on vous invite à croquer les mets, M-E-T-S, mais on aime aussi les mots de la cuisine. Tiens, on va faire un petit jeu, Olivier et Yves. Si je vous dis aguesi, vous me dites quoi ?
Bah, c'est l'un des symptômes du Covid, malheureusement.
c'est vrai.
La perte du goût et de l'odorat. Ouais.
Exactement. Et c'est une définition qu'on connaît presque tous. Elle était célèbre grâce au grand Louis.
C'est dramatique, docteur. J'ai perdu le goût. Je prends du poisson, je ne sens rien, de la viande, c'est pareil, rien. Le vin, c'est de l'eau. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Mais il a le Covid.
C'est ça. En privatif, du grec gesis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Louis de Funès, l'aile ou la cuisse. Alors, si je vous parle d'Aguesi, c'est tout simplement parce que c'est le nom d'un journal qui vient d'être lancé par les éditions Menu Fretin. On peut s'abonner sur le site pour le recevoir. C'est gratuit et on l'a en main. C'est un très beau journal qui se déplie et qui nous apprend des mots, le vocabulaire de la cuisine, mais des mots auxquels on a même oublié dont on a oublié la signification. Par exemple, tiens, si je vous dis... porter un toast, est-ce que vous savez d'où ça vient cette expression, porter un toast, Yves ?
Porter un toast, non, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'était sans doute de prendre un toast et de...
De le lever comme ça
De le lever pour la santé des autres.
Des autres ? Olivier, vous dites quoi, vous ?
Pas mieux.
Bah, ça vient des Anglais, c'est pour célébrer la santé de quelqu'un, vous avez raison, mais non, c'est pas, ils ne le lèvent pas le toast, ils le mettent le toast dans un pot de bière, ils mettent une tranche de pain grillé dans un pot de bière.
Ils n'ont pas de goût les Anglais, vous savez ça Laurent.
Mais il y a le pain liquide, c'est encore plus facile.
Oui, et c'est ce pain qui s'appelle le toast. Alors vous avez raison, si vous venez d'arriver sur Europe 1, on vient de parler du pain liquide d'Hervé Normand qui nous fait un pain avec effectivement de l'eau et du levain naturel et du pain en poudre qu'il a mixé et c'est très très bon, c'est un côté boisson fermentée. Et c'est depuis la Révolution qu'on porte des toasts en France. Dans l'univers du vin, il y a des mots aussi qu'on ne connaît pas bien, Olivier.
Bah, regardez le mot caudalie, par exemple. C'est un joli mot, je trouve. Vous savez ce que c'est, les caudalies d'un vin ? C'est sa longueur en bouche. C'est une manière de mesurer la longueur en bouche du vin. On dit les caudalies.
Oui, c'est joli. Demain, c'est la fête de la musique. Tiens, aussi, on peut s'amuser à trouver des noms d'instruments de musique qu'on retrouve en cuisine.
Oui, il y a la fameuse fourchette diapason et puis le piano.
Le piano.
Qui est l'essence de mon métier. La mandoline, le fouet. Il y a beaucoup de similitudes entre
la cuisine et la musique. Hein. Vous êtes un poète des fourneaux, Yves Candebord. Est-ce qu'il y a un mot de cuisine qui a une saveur particulière pour vous ? Je sais que vous êtes très attaché aux mots, au vocabulaire.
Il y a un mot que j'adore, qui est un très joli mot assez désuet, c'est contiser.
Ah oui, redites. Ah oui,
contiser.
Ça sert à quoi, contiser ?
Alors, contiser, par exemple, Laurent, vous allez prendre aujourd'hui, en rentrant, un beau morceau de bœuf, un pavé de bœuf. Vous allez prendre des anchois. Vous allez faire des incisions dans votre palais de bœuf et vous allez glisser vos filets d'anchois. On contise un filet de bœuf aux anchois. Et vous le rôtissez, anchois bœuf, Sainte-Marie de la mer, superbe recette.
Contisons et lisons Aguesi. Hein, on vous mettra les références sur europe1.fr et vous les trouverez également sur menufretin.fr.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors, avant d'accueillir Guillaume de Tonquédec, retrouvons un autre compagnon de la fourchette. J'ai nommé le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, lui aussi grand amateur de mots et de bons mots. Et en ce moment, Jean-Luc, hein, on va le dire, c'est une véritable sentinelle du goût. Il veille sur nos restaurateurs, comme nous tous, du mieux que nous pouvons. Et il nous présente une table qui vaut le détour, comme on dit dans certains guides, une table de cœur. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Salut les bons vivants. Je vous emmène en Bordelais, à Saint-Sulpice de Falérins. C'est au pied de Saint-Émilion et c'est un des derniers vrais de vrais routiers de France. Ça s'appelle chez la Puce. Alors la Puce, c'est une mémé légendaire 1m50, une petite bonne femme chaussée de pantoufles. Elle a passé son temps à nourrir tous les compagnons de la vigne, du régisseur à celui qui a le sécateur en main. Cette mémé est un véritable feu follet, un ciel d'orage. Elle a une énergie incroyable. Et tous les hommes sont ses petits chéris. Alors quand vous arrivez, même si elle ne vous connaît pas, c'est toujours « Bonjour mon petit chéri, alors comment ça va mon petit chéri ?» Aujourd'hui, elle a 97 ans et demi. Et bon pied, bon œil, croyez-moi. Alors elle a passé la main à son neveu pour la cuisine, Philippe, qui envoie le menu à 14 euros. C'est tout simplement divin. C'est tout simplement humain, digne de Tata la puce. Avant-hier, au programme, potage de fan de radis, le poulet rôti, les grillades en douillette, travers de porc qui sont faites au feu de bois, fromage. Le dessert, on choisit entre le réolais, l'île flottante ou la mousse de fraises, vin et café compris. Vous m'avez compris, 14 euros. C'est tout simplement sublime. Et croyez-moi, c'est une parole de petit chéri.
Eh bien, bien compris, petit chéri. Effectivement, c'est beau, 14 euros. Et voilà, on veut de l'émotion, on veut de la simplicité dans les assiettes. Et on y était. Une petite adresse, tiens, à sauvegarder comme ça, Olivier.
Ben, pas une, mais des centaines. Il a raison, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable en France d'avoir cette diversité, d'avoir tous ces petits restaurants qui signent des cuisines locales, des gens atypiques. Il faut aller les voir. Parce que sinon, ils vont disparaître. Et on le disait tout à l'heure, j'ai pas envie de me retrouver avec uniquement des chaînes dans des zones commerciales pour aller manger. Allons voir ces gens-là, soutenons-les.
Tous au bistrot.
Exactement.
Et au resto.
En bas de chez nous, on en a forcément un qui vaut le coup.
Allez, ne bougez pas, le temps de rajouter un couvert. On revient avec un comédien qu'on adore ici. C'est Guillaume de Tonquédec qui sera avec nous dans un instant.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Chaque samedi avant midi, vous le savez, c'est l'heure d'accueillir notre invité, un invité qu'on aime beaucoup ici à la table des bons vivants. Après une enfance paisible dans les Yvelines, il s'encanaille pour la comédie. Propulsé par la série Fais pas ci, fais pas ça, il a formé avec Valérie Bonneton le duo de la famille Le Pic. César du meilleur second rôle, s'il vous plaît, pour le prénom. Il vient de triompher au théâtre dans La Garçonnière. Il est à l'affiche de la comédie familiale Les Blagues de Toto. L'excellent Guillaume de Tonquédec est notre invité. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Merci d'être
Bonjour.
Avec nous.
Bonjour Yves.
Une blague de Toto ?
Une blague de Toto ? moi en fait, je me suis toujours dit que c'était un personnage désincarné, Toto. Pour moi, c'est des trucs qu'on se raconte dans la cour. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce truc-là ? Est-ce que ça va être une suite de sketchs un peu ennuyeux ? Et en fait, le scénariste a une super idée. Il a décidé de montrer un petit garçon qui est inadapté au système scolaire. Donc, pour survivre, il va faire des blagues. Et du coup, ça devient un personnage très touchant. Et moi, je joue son papa qui essaye d'être sévère, quoi, et qui évidemment, n'y arrive pas tout à fait. Quoi.
Il vous fait tourner en bourrique et il va vous causer des problèmes, même dans votre milieu professionnel. Est-ce qu'il est bien vu au niveau du casting ? Parce que c'est vrai, on l'imagine tous, Toto. On a tous grandi avec Toto. Quelle tête il a ? Et je trouve que c'est bien vu, le casting, parce que le gamin, il a un côté un peu Pierre-Richard Lunaire, comme ça, et on s'identifie assez à... On retrouve Toto, quoi, voilà. Ça sort le 22 juillet au cinéma.
Le 5 août, finalement, ça a été décalé au 5 août.
Ouais. Mais en tout cas, on a envie de retourner au cinéma. Ça nous manque, c'est comme le restaurant,
Guillaume
de Tonquédec.
On a envie, le restaurant, les théâtres, tout ça. Il faut que ça rouvre avec les mesures sanitaires, bien sûr, qu'il faut, qui vont avec.
Mais il faut que ça rouvre.
Mais il faut que ça rouvre.
Quel est votre goût de la semaine, Guillaume ?
Mon goût de la semaine ? J'ai invité des amis à dîner hier et on a mangé un saumon grillé à la rhubarbe et à la pomme.
Fait par vous-même, parce que vous cuisinez.
Très honnêtement, c'est beaucoup ma femme qui l'a fait, mais on a trouvé la recette ensemble et j'adore cuisiner. Par contre, j'ai choisi le vin. Qui était un vin. Alors, j'ai un super caviste. Là, on peut balancer les adresses.
Ah oui, vous pouvez, vous pouvez.
Ça s'appelle Les Vignes de France. C'est 3 avenues de Rocancourt, Le Chesnay, 78.
Oui, dans les Yvelines.
78-150. Oui, oui. J'ai demandé Olivier, le chef, là, le caviste en chef. Il est dément. Et il m'a dit là-dessus, pour casser l'acidité de la rhubarbe, il te faut un vin de Cassis. Donc, j'ai pris. Attendez, c'est un domaine du paternel, à 13%.
Ouais. Ah, c'est bien, mais bien. C'est précis. Non, mais on rigole, mais vous cuisinez beaucoup et vous accordez beaucoup d'importance aux produits, à la sélection des matières premières quand vous faites à manger.
En fait, moi j'aime bien, ça commence par le marché en fait. Enfin, de le marché puis d'aller choisir ses produits.
Ce sont les préliminaires.
Donc, exactement. Donc si on a des bons produits, après c'est quand même plus simple de les accorder. Après, il ne faut pas trop les faire cuire ou pas assez, donc c'est compliqué. Mais quand on a les bons produits, évidemment ça change tout.
Vous pêchez vous-même, paraît-il ?
je pêche moi-même. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à acheter du poisson en région parisienne. Je suis un peu comme les... Vous savez, c'est dans Astérix, là, le poisson qui vient de Lutèce. Là, ouais. Il se le fout sur la gueule en disant « Moi, mon poisson, il vient de Paris. » j'ai du mal oui, avec ça parce que moi, je pêche mon propre poisson. Et du coup, quand vous pêchez un lieu, par exemple, un lieu jaune, on parle là, il est midi moins 10 et c'est parfait, là, juste avant de manger, un lieu jaune ou du maquereau que vous mangez frais, quelques minutes après. En plus, moi, j'ai une maison qui donne sur la mer. Donc, je dis, c'est un lieu qui vient du jardin, quoi, parce que je regarde la mer en dessous, qui est le prolongement du jardin. Ou à Omar, c'est exceptionnel.
On n'en trouve pas dans la Seine, ça, en l'occurrence.
Ce sont vos oncles hein, qui vous ont appris à pêcher.
Oh, mais vous savez tout sur moi.
Eh oui, on se renseigne, on se renseigne.
C'est mes oncles. Oui, oui. Bah, en fait, ma grand-mère avait acheté une maison à Trégastel, Côte d'Armor, à l'époque Côte du Nord. J'avais beaucoup de mal à dire Côte d'Armor, d'ailleurs. C'est plus touristique, mais c'est, bon, c'est comme ça. Et ils avaient un petit bateau, mes oncles, et j'ai appris à pêcher avec eux. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon premier cachet, c'est d'acheter un bateau pour refaire la même chose que ce que je faisais avec eux quand j'étais petit. Quoi. Alors, pêche au filet, au casier, à la ligne. Enfin, c'est l'endroit, la côte de Granit Rose, c'est tellement beau que rien que la promenade vaut la peine. Et puis de pêcher en plus, c'est génial. Quoi.
Demain, c'est la fête des pères. Alors, on pense tous aux idées de cadeaux. Et Yves Candebord, un cadeau alors, qui vaut son pesant d'argent quand même. Mais on va vous expliquer que ça permet de faire des économies malgré tout. C'est une machine à café expresso broyeuse. Yves, c'est un peu la Rolls de la machine à café. On en voit de plus en plus. Hein.
Oui, c'est de la maison DeLonghi. Alors, c'est la Magnifique AS. En plus, c'est le premier modèle. C'est celui qui coûte le moins cher, si je peux dire.
Combien ?
Mais c'est vrai, Laurent, on peut quand même regarder qu'elle est très belle.
Elle est bien belle. Carrossée. Ouais.
Mmh. Alors, le prix, c'est 399 euros.
Oui, presque 400 euros. Bah, ouais.
Je sens que vous allez
dresser sur votre... Ça coûte cher. Mais je sais que si vous en parlez, c'est parce que vous allez nous convaincre qu'on fait des économies quand on est notre machine à café en achetant celle-ci.
Vous allez prendre votre calculette. Ça, c'est important. Là, il faut la machine à calculer.
On vous écoute.
Alors, il faut savoir qu'on consomme 5,5 kg de café par habitant en France.
En moyenne, oui.
En moyenne. Donc, la machine qui vaut 399 euros.
Oui.
Le prix du café bio équitable, c'est entre 18 et 20 euros. Donc, ça vous revient en achat 100 euros. Donc, ça fait 399 plus 100, on est à 499 euros.
Oui.
Vous achetez une expresso.
Oui. Voilà. 150 euros la machine.
La machine vaut 150 euros. Le kilo de café expresso, la capsule, c'est environ 62 euros.
Mmh.
Donc, par an, par habitant, c'est 340 euros. Ce qui veut dire que ça vous revient à 491 euros une expresso. Donc, à un an, c'est kiff-kiff.
En un an, elle est amortie.
Et la deuxième année, Laurent,
on fait des économies sur les capsules.
Vous avez toujours les 350 euros d'un expresso et vous n'avez que 100 euros.
Vous avez suivi, Guillaume de Tonquédec ?
J'ai suivi et ça me rassure parce que j'ai un message à lancer, c'est la fête des pères demain. Et exactement ce que j'ai commandé, Yves. Donc je vais être hyper déçu parce que ma famille m'écoute. J'ai pas le cadeau. Yves nous a dit qu'en plus, je vais vous faire des économies. Alors,
il n'y a pas que les économies.
Il n'y a plus les petites boîtes d'aluminium qu'on doit balancer dans la nature, etc.
Exactement.
Même s'ils les recyclent, Nespresso.
Et qu'est-ce que ça donne le café, alors le goût de ce café ?
Et ça vous permet d'acheter un café personnalisé. Ça vous permet d'aller voir un artisan torréfacteur, de voir avec lui, selon le goût que vous avez, de pouvoir choisir votre café. Ça vous permet, Laurent, très important, le café, il est broyé à la minute. Donc, ce qui veut dire broyé à la minute, c'est fraîcheur et arôme.
Oui, alors attention, il ne faut pas mettre n'importe quel café non plus, hein, parce qu'il y a de très bons torréfacteurs aujourd'hui, donc il faut mettre aussi un petit peu le prix dans le café.
Faisons confiance à nos artisans. Pendant le confinement, on leur a fait confiance. Oui. Continuons d'aller les voir. On a tous un petit torréfacteur.
Il est bon, hein ?
Et ah, il est bon.
Guillaume de Tonquédec, tiens, votre avis.
Ah bah attends, il est là, alors je n'avais même pas vu qu'on
on vous a fait une petite tarte aux noix, parce qu'on sait que vous aimez le sucré aussi, on va en parler tout à l'heure.
J'adore.
C'est un bec sucré, Guillaume de Tonquédec.
Et une recette, rognon de veau café, rognon de veau sauté, déglacé avec l'expresso, une pointe de crème, ça vous fait un petit rognon à la crème de café, c'est très très bon le mariage.
Oui chef, dans un instant nous allons découvrir les coups de fourchette de Guillaume de Tonquédec et puis la chef Stéphanie Lequelec sera des nôtres, que des bretons tiens, pour le plat du jour. Enfin presque breton vous entendrez. On revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. Bon samedi midi sur Europe.
Écoutez le monde changer.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux cuisses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci d'être là, les amis, et bienvenue hein, si vous venez de nous rejoindre. Depuis 11h, nous avons cassé la croûte du pain au levain, nous avons bu la tasse de café moulu d'Yves Candebord et nous avons rajouté un couvert pour notre invité bon vivant, Guillaume de Tonquédec. Guillaume qui se régale, je vous ai fait une tarte aux noix du Périgord.
Délicieuse. Elle est délicieuse. Pardon, je parle la bouche pleine, c'est très impoli.
On a le droit, c'est une émission dans laquelle on a le droit. C'est vrai que vous êtes très poli, hein, Guillaume de Tonquédec.
Ouais. Il paraît.
Mais c'est pas justement parfois la politesse. Tiens, on dit que ce serait presque un défaut. C'est tout le contraire quand même, la politesse. C'est ça qu'on aime aussi chez vous. Vous êtes un excellent comédien et vous êtes quelqu'un de très bien élevé. Voilà, les deux sont là pour plaire quand même.
Je suis un stratège en fait, Laurent. Quand vous êtes poli face à quelqu'un de violent ou de très mal poli, ça le désarme complètement. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Rien.
Comme le sourire,
et
bien
comme
sûr.
Ça devient de plus en plus rare, la politesse, malheureusement. C'est une arme merveilleuse. Mais je m'en suis aperçu un peu tard, parce que je trouvais que c'était un défaut au départ. Puis finalement, j'assume.
Oui, mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors, c'est bientôt l'heure de notre plat du jour, Guillaume. Nous sommes samedi. Est-ce que vous avez un plat de prédilection le week-end, en cuisine, à la maison ?
Moi, j'adore le poulet. Un bon poulet fermier, voilà, cuit au four avec les pommes de terre que vous mettez autour. Vous les rajoutez. Il ne faut pas les mettre tout au début, parce que sinon, elles sèchent. Donc, moi, je les mets un peu après le départ de la cuisson. Pour qu'elles prennent le jus de la bête.
Pour se nourrir du jus.
Ouais. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je cultive toutes mes herbes de Provence, le thym, je mets plein d'herbes là-dedans, et un peu de fleurs de sel. Bon, là, ça, c'est un peu du luxe, on peut prendre du sel normal. Et les patates, elles ont un goût. Si le poulet est bon, voilà.
C'est Mais c'est vrai que les herbes font toujours de l'effet sur un plat. C'est la pleine saison des herbes fraîches qui débarquent, ça, Yves Candebord.
Ouais,
ça fait toujours du bien.
Oui, puis surtout en plus, c'est vrai, les accompagner sur la protéine, ça amène beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur, ça beaucoup de légèreté. Et un poulet, quoi de plus beau qu'un poulet rôti aux pommes de terre ? Il n'y a pas grand-chose.
C'est l'heure de retrouver notre chef, tiens, pour le plat du jour. Alors, avec ses deux étoiles, elle fait briller les fourneaux de la Seine, sa nouvelle adresse parisienne. Elle était très active pendant la crise. Elle a adapté sa cuisine à la vente emportée. Elle a rouvert son bistrot. Est-ce qu'elle va rouvrir le restaurant gastronomique ? Elle va nous dire. C'est Stéphanie Lequelec. Un nombre tenant comme Guillaume de Tonquédec. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Laurent, bonjour Guillaume, salut Yves.
Bonjour Stéphanie. Salut Stéphanie.
Et Olivier était avec nous aussi, je crois que vous vous connaissez bien aussi.
Ah, coucou Olivier.
Comment ça va Stéphanie ?
Très très bien, ravi d'être avec vous ce midi.
Oui absolument, il est avec nous ce midi, on est ensemble, on est ravis d'être avec vous. C'est l'été depuis aujourd'hui, elle ressemble à quoi votre nouvelle carte ?
Ah bah justement, elle s'inspire aujourd'hui de courgettes fleurs, de tomates, de merveilleuses aubergines, on a les premiers poivrons. Je crois qu'elle a une couleur très végétale en ce début d'été.
Alors votre cuisine, c'est vrai, est souvent inspirée de votre enfance dans le sud-est. Vous allez nous faire un plat du jour végétal, Stéphanie. Racontez-nous ce qu'on pourra refaire à la maison dès aujourd'hui.
Absolument, vous parliez des herbes fraîches. Moi, je vous propose de les jeter comme ça, cette belle mêlée d'herbes fraîches, sur une belle tomate, alors de variété ancienne. Alors la cœur de bœuf, la marmande qui est délicieuse, pourquoi pas la tomate ananas. Surtout de la tomate de pleine terre, très important.
Oui, les premières sont là, ça y est.
Les premières sont là, on a eu un temps clément jusque-là, donc les premières sont là. Donc on va simplement couper cette belle tomate en deux, la faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail dans un plat, dans un four à 190 degrés environ, 8-10 minutes. Ensuite, on va la laquer, la glacer avec une réduction de vinaigre balsamique, quelques petits croûtons bien colorés, quelques tranches d'anchois très très fines, un petit peu de jolies olives, fleurs de sel, un beau tour de moulin à poivre et une belle mêlée d'herbes fraîches à la fin, le tout arrosé d'une bonne huile d'olive.
Oh bah c'est facile ça, et c'est bien. Et c'est
il vous reste de la place à midi.
Vous allez rouvrir le restaurant gastronomique alors, Stéphanie Lequelec, votre restaurant qui s'appelle La Seine.
On a la chance d'avoir une terrasse devant le restaurant, de pouvoir avoir rouvert le bistrot depuis lundi dernier. Donc, on va se concentrer sur cette offre-là. Et le restaurant 2 étoiles rouvrira à la rentrée avec un discours encore plus affirmé. Ça me laisse le temps aussi de repenser un petit peu la cuisine de cette rentrée. Donc, on va se concentrer jusqu'à fin juillet sur le bistrot et la terrasse.
Donc, tous au bistrot en attendant. Et puis, on vous retrouve dans votre livre aussi qui s'appelle « Cuisine » aux éditions Le Chêne. Un très beau livre avec des recettes faciles comme ces belles tomates confites que vous venez de nous faire.
Absolument.
Et il a envie de les refaire, Guillaume de Tonquédec.
Ah ouais, j'ai noté, j'ai tout noté dans ma tête.
Et voilà, une cuisine simple et de convivialité et de partage.
Merci Stéphanie d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et bonne reprise. Vous avez envie
Merci
de mettre.
Vous,
au revoir Stéphanie.
Embrasse.
Nous aussi, on vous embrasse. Vous avez envie de mettre en avant un restaurant aussi que vous avez découvert quand vous avez joué au théâtre, l'excellente garçonnière à Paris, Guillaume de Tonquédec. Racontez-nous.
Oui, je joue au théâtre de Paris, rue Blanche. Et puis, comme toujours, on est des oiseaux de nuit. Hein, les comédiens, une fois qu'on a joué, qu'on a bien eu la trouille et tout, mais qu'on a bien fait notre travail, c'est physiologique. Il y a peut-être un petit peu un manque. On a envie de le combler par peut-être un verre de vin, avec modération toujours. Et puis, la nourriture, quoi. Une fois qu'on a donné, on aime bien se recharger. Et donc, moi, j'adore aller dîner après le spectacle. Et c'est une copine, Muriel Combeau, comédienne qui jouait dans la garçonnière avec moi, qui a découvert cet endroit qui s'appelle Détour, qui est juste en bas de la rue Blanche, à gauche, je ne me souviens plus du nom de la rue. Pour le moment, malheureusement, c'est fermé. C'est un jeune type qui était là-dedans, qui s'appelle Adrien,
Finaliste de Top Chef.
Et j'ai découvert depuis qu'il était finaliste de Top Chef, mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas.
Adrien Cachot.
Ouais, Adrien Cachot. Et il a ouvert sa table pour nous. Et lui, il commençait et nous, on commençait à jouer. Donc, on a un peu débuté ensemble ces deux succès. Et du coup, j'ai adoré aller chez lui. Quoi. C'est un dingue, c'est un génie.
Et il cherche une nouvelle adresse plus grande. Il va, je pense, ouvrir un autre endroit que celui-ci. Il cherche à s'agrandir.
Mais n'en parlez pas trop parce que je veux toujours avoir mon rond de serviette là-bas. Je veux qu'il me reste une place. C'est tellement bon.
Ne bougez pas. On revient dans un instant pour répondre aux questions que vous posez au 39-21. Et vous avez des questions à nous poser, Guillaume. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous voilà de retour à la table avec Guillaume de Tonquédec, un bon vivant, curieux et partageur comme on aime. Guillaume, vous êtes à l'affiche le 5 août donc, de la comédie familiale Les Blagues de Toto. L'année dernière, on vous a redécouvert aussi dans le film Roxane, dans lequel vous incarnez un agriculteur qui tente de sortir de la crise en faisant le buzz avec ses poules pondeuses. Je dis redécouvert parce que c'est encore une autre interprétation, un autre registre là. Et vous êtes investi en plus, je crois, pour ce rôle.
Ah oui, oui. Moi, j'ai adoré ce scénario. Quoi. J'ai lu ça. C'était très tendre, très touchant et très poétique. C'est un agriculteur qui a quitté l'école à 16 ans pour embrasser la carrière d'agriculteur. Donc, il est un peu gêné avec tout ce qui est la culture culturelle. Et il va tomber fou amoureux du texte de Cyrano de Bergerac, dans lequel il y a bien sûr la fameuse Roxane. Et il va donc appeler sa poule préférée Roxane. Et il va choisir de déclamer des vers parce que c'est devenu plus fort que lui. Mais comme il a honte, il veut pas être jugé ni par ses amis ni par sa famille, il va déclamer des vers à ses poules. Comme ça, il est sûr que ça va les rendre heureuses, qu'elles vont pondre mieux et que lui pourra assouvir sa passion. Puis un jour, quand son exploitation est menacée, il décide de mettre à profit cette passion et d'essayer de faire le buzz sur Internet avec ses vidéos un peu maladroites et un peu ridicules. C'est un personnage bouleversant.
Très attachant. Très on peut voir ce film en VOD, bien sûr.
Oui, donc. Il est sorti en VOD et c'est j'ai adopté d'ailleurs Roxane. Elle est dans mon jardin, donc j'ai des œufs de Roxane tous les jours. Rien de meilleur qu'un œuf frais. Hein.
Ah bah un œuf extra frais pour des œufs coques, pour des œufs mollets. Rien
goût,
de tel.
Quoi.
Le week-end, c'est les jours où on fait des œufs brouillés avec des bons œufs des poules de Guillaume de Tonquédec.
Voilà.
On se régale. C'est l'heure de partager avec nos auditeurs des trucs et des astuces pour cuisiner au quotidien. Est-ce que vous avez une question que vous voudriez nous poser à propos d'une recette, d'un truc, Guillaume de Tonquédec ?
Ben moi, j'aimerais bien savoir, il y a Yves qui est là, qui peut peut-être m'aider, certainement. J'adore le poisson, je le pêche. Comment réussir la cuisson d'un poisson ? Voilà, ça, c'est quand même une galère.
Ça dépend duquel. Alors, poisson entier, filet de poisson, déjà, c'est la première question, non ?
Oui, c'est toujours très délicat. La cuisson du poisson, c'est beaucoup plus délicat que la cuisson de la viande. Et j'ai envie de vous dire, l'idéal, c'est de cuire entier. Ça, c'est la base.
Si on peut c'est meilleur, surtout.
Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Laurent. Avec Laurent, c'est exactement ça, Olivier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on privilégie quoi ? L'esthétique ou le goût ?
C'est ça.
Si on pense au goût, on va laisser le poisson entier. Après, vous avez différentes façons de le faire. Poché, vapeur, rôti, braisé, au barbecue. Mais après, j'ai envie de vous dire, même si un poisson, quand vous le cuisez entier, s'il a à peine, si vous avez dépassé le seuil de cuisson idéal, c'est pas très grave. Parce que vous allez quand même conserver toute l'humidité, vous allez conserver toutes les saveurs. Et il sera obligatoirement, vous allez conserver ce côté iodé que vous avez. Et le poisson restera toujours un produit d'exception.
Un joli poisson plat comme un carlet, par exemple, qui reste un poisson bon marché, accessible par rapport au turbo.
Et c'est délicieux.
De belles incisions comme ça à la surface du carlet. On peut y mettre, par exemple, de l'oignon rouge, du citron vert et des aromates. Et on le contise, comme disait Yves tout à l'heure.
Et après, la cuisson, c'est vraiment le toucher. Quoi. C'est vraiment le toucher. Alors, on a une façon de voir si elle est cuite. C'est quand on le prend du côté ventre, juste à l'extrémité, quand vous l'avez ouvert pour le vider, il y a une arête que vous arrivez à tirer. C'est une arête qui part de l'extérieur et qui va jusqu'à l'intérieur du poisson, qui est attachée à l'arête centrale. Mais c'est vraiment un geste technique. Il faudrait que je vous le fasse voir visuellement pour le comprendre.
Eh ben on va faire un tuto sur europe1.fr. Et en attendant, on peut aussi faire des filets à la plancha. Il va faire beau ce week-end. Plancha ou à la poêle. Le petit truc pour faire les poissons au barbecue ou sur la plancha. Du papier sulfurisé qu'on met comme ça sur la plancha. De l'huile d'olive et de jolis filets de rouget, par exemple. Ou un beau pavé de cabillaud, comme vous aimez le cabillaud. Ou le lieu jaune, encore mieux, qui est un poisson de pêche durable. Eh bien, comme ça n'attachera pas sur la plancha. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de cuisiner du poisson. Il faut manger un petit peu de tout. C'est quoi votre poisson préféré, Guillaume ?
J'adore le turbo.
Très bon poisson. Très joli. Il a de bon goût. Hein.
Il a des goûts assurés.
Non, mais il a raison. Il faut se faire plaisir en cuisine. Guillaume de Tonquédec, tiens, justement, va vous cuisiner sur vos souvenirs de goût dans un instant. Mais avant, il y aura les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Ce sera juste après ça. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière, mais on rigole en même temps.
Oui, c'est
Laurent Mariotte.
On rigole. Hein.
On rigole bien. Guillaume de Tonquédec est avec nous jusqu'à 12h30. C'était pas lui, hein, c'était Jacques Villeray qu'on vient d'entendre. Vous êtes à l'affiche de la comédie familiale Les Blagues de Toto qui sort le 5 août. Guillaume, vous vous dites cinglé du sucre. Quels sont vos desserts préférés alors? Dites-nous tout.
Oh, moi, j'adore la meringue. C'est un souvenir d'enfance. Donc, 2 blancs d'œufs, 50 grammes de sucre quand même. Une petite pincée de sel pour que les blancs montent bien avant en neige.
Et petite pointe de citron aussi.
Ah, pointe de citron. Exact.
Vous avez vu votre maman en faire beaucoup. Hein.
J'enlève les germes aussi du blanc d'œuf. Vous le faites ou pas? Pour que ça monte mieux. Quoi. Ouais. En fait, oui, c'est une recette que j'ai apprise avec ma maman. Enfin, je l'ai regardée faire surtout. Quoi. Et c'est un souvenir, rien que l'odeur quand ça cuit. Et même quand c'est pas cuit aussi, j'adorais ça. C'est-à-dire mettre le doigt dans le plat pour finir.
C'est ce qui a pas fini
dans la cuisson. Ouais, j'adore ça. J'adore toujours ça d'ailleurs.
C'est ce qui vous rend addict à une pâtisserie qu'on trouve partout en France aujourd'hui qui vient du Nord. On en parle de temps en temps ici. C'est le merveilleux de Fred. Ouais. C'est
j'adore.
Ça
j'adore le merveilleux de Fred. Parce que justement, il me déculpabilise parce que j'ai l'impression que c'est léger.
Qu'il n'y a que de l'air.
Ouais, c'est ça. Je suis obligé de faire du sport, mais bon, j'adore ça.
Vous aimez cuisiner, bien manger, hein, vous nous le dites depuis midi, ouais. Guillaume de Tonquédec. Vous faites attention aussi au choix du vin.
J'adore le vin, mais alors c'était pas forcément quelque chose que je connaissais très bien ou que j'aimais tout simplement. Et j'ai découvert ça et j'ai appris ça grâce à des copains comédiens et grâce au plaisir de jouer en tournée. Parce qu'en tournée, on va dans les villes, on va dans les régions. Et donc, moi, je commandais toujours les mêmes choses sans très bien connaître. Et les copains m'ont dit, mais non, il faut que tu commandes les vins de la région. Donc, par exemple, j'ai joué à Nantes et Pierre Mondy m'a parlé du Mentou Salon Blanc. Il adorait boire un verre de vin blanc. C'est la première chose qu'il faisait en arrivant au restaurant. Il était même un petit peu nerveux tant qu'il n'avait pas eu son verre de vin blanc. Une fois que le verre de vin blanc était arrivé, j'envoyais mon Pierre Mondy retrouver son sourire et sa bonhomie. Et c'était un moment extraordinaire. Donc les vins, je les ai appris grâce à la tournée et grâce aux régions.
Et si je me souviens bien, dans le film Barbecue d'Éric Lavenne, c'est vous qui apportez les 2 bouteilles de Pétrus qui vont ensuite servir à faire de la sangria.
Vous avez raison.
Une scène assez culte.
C'est une scène assez culte.
Très bon film.
Avec Jérôme Commandeur.
C'est Jérôme Commandeur qui ne savait pas, qui a pris les 2 bouteilles qui étaient sur la table.
Éric Lavenne qui prépare la suite de Barbecue, hein, d'ailleurs.
Oui, ça s'appellera Plancha.
Ben oui, forcément. C'est l'heure de vos 2 minutes du vin, Olivier. Alors habituellement, vous nous apprenez à déguster. Mais alors aujourd'hui, vous allez nous apprendre à compter. Parce que c'est vrai que pour comprendre le prix que nous payons lorsque nous achetons les bouteilles, il faut comprendre ce que le vin coûte à produire, hein, si je suis clair.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Quand on achète un produit, il faut rémunérer le producteur au juste prix. Dans le cas du vin, c'est la même chose. C'est vrai qu'on a tous envie de payer pas cher, mais est-ce qu'on paye le juste prix? Et je vais vous aider à décortiquer le prix d'une bouteille de vin. Alors, il faut savoir que le vin est un produit quand même complexe, c'est un produit transformé. Alors pour faire une bouteille de vin, voilà ce que le vigneron va devoir faire. Il va devoir cultiver sa vigne à l'année, vendanger les raisins, vinifier, élever le vin, le mettre en bouteille, ajouter un bouchon, une étiquette, faire sa promotion, envoyer le vin. Bref, tout ça a un coût. Et on pourrait dire que le coût minimum hors taxe de toutes ces opérations, mais vraiment en tassant au plus bas possible, c'est autour de 2 euros hors taxe. Donc une bouteille de vin, si on rajoute la marge ensuite, le transport, etc., pour du vin français, ne peut pas être vendu en dessous des 3 euros.
Oui, mais alors ça, c'est les 20 premiers prix, c'est le cas de le dire.
Bah oui, parce qu'après, évidemment, les prix peuvent s'envoler très rapidement dès qu'on veut monter la qualité. Il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. Alors, le travail en bio, par exemple, c'est plus cher. Le travail des sols, la maîtrise des rendements, les vendanges à la main, un élevage long, des barriques, des bouchons de qualité, etc. Donc tout ça fait monter l'addition. Et dans le cas d'un vin haut de gamme, de qualité, on va dire qu'on tourne là autour de 12 à 15 euros le prix de production.
Alors justement, 12-15 euros, c'est des bouteilles accessibles, mais il y a des prix et des vins beaucoup plus chers que ça.
Bah oui, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros, parce que, en fait, je n'ai pas encore parlé d'un élément qui est fondamental, c'est le foncier. Voilà. Et c'est le foncier qui, depuis 30 ans, explose, qui, à un moment ou à un autre, se retrouve dans le coût de la bouteille, qui fait qu'aujourd'hui, quand on achète certains vins qui coûtent 15 euros à produire et qu'on les achète 500, on a des marges, des culbutes qui sont pratiquement uniques. Même dans la haute joaillerie, on ne fait pas autant de marge.
Et le foncier peut peser très lourd, hein. On le voit et on l'entend souvent à propos de la Bourgogne.
Ben voilà, petit calcul à vos stylos, le problème du jour, sachant qu'un hectare de Grand Cru en Bourgogne peut valoir jusqu'à 20 millions d'euros. Qu'un hectare produit entre 4 et 5 000 bouteilles, quand tout va bien, à combien dois-je vendre ma bouteille pour amortir mon achat sur 20 ans ? Alors, vous cassez pas la tête, j'ai à peu près la réponse, c'est au minimum 300 euros.
C'est impossible.
Alors, je vous l'accorde, on est loin du vin partage cadeau de la terre, mais c'est une équation réelle et aujourd'hui, il y a des gens qui achètent les hectares à ces prix-là et donc on retrouve les bouteilles.
Et pourtant, il y a des jeunes producteurs quand même en Bourgogne, donc ils ne payent pas ces prix-là.
Ah bah, alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux, les nouveaux investisseurs, et là, je vous rassure, il n'y a plus de jeunes producteurs qui sont capables de rentrer à des niveaux pareils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qui achète les grands terroirs de Bourgogne, d'énormes fortunes françaises, que ce soit Bernard Arnault ou François Pinault qui ont récemment acheté des propriétés à ces prix-là, il n'y a qu'eux qui peuvent jouer.
Guillaume de Tonquédec, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, cher Guillaume ?
Bah, la meringue, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai appris ça avec ma maman et c'est ma Madeleine de Proust, voilà.
Le premier plat que vous avez cuisiné ?
C'est le fameux poulet aux pommes de terre, avec elle aussi, quoi. Ouais, ouais. Puis ma grand-mère aussi, qui était une très bonne vivante, qui adorait manger et boire aussi. Là, la table, elle recevait à table, quoi. Et elle disait toujours oui quand on arrivait avec un copain, une copine. Il n'y a aucun problème, va chercher deux chaises ou mettez-vous sur les genoux les uns des autres. C'était toujours ouvert et très, très, extrêmement joyeux, quoi.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable ?
J'en ai eu pas mal, j'ai de la chance, mais l'un des plus beaux, parce que c'était dans les premiers, c'était chez Bocuse, Jacques Weber avec qui je jouais l'école des femmes. J'étais jeune comédien, j'avais 23-24 ans, nous a emmenés avec Isabelle Carré, qui débutait aussi, on jouait l'école des femmes donc à Lyon, il nous a emmenés là-bas et je me souviens notamment la fameuse soupe VGE qu'il avait créée
avec la truffe.
Donc à la truffe avec cette croûte comme ça au-dessus, j'ai bien surpris ça et je me souviens surtout du dessert, hein, on ne se refait pas, qui était une crème brûlée. Je n'avais jamais mangé une pareille, je pensais tout connaître sur la crème brûlée et non.
Votre pire repas ?
Jacques Borel.
Jacques Borel, il faut expliquer aux plus jeunes.
Il faut expliquer aux plus jeunes parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Jacques
Borel. Les restos-routes.
C'est les restos-routes, c'est-à-dire qu'il avait un deal, je ne sais pas comment il avait fait ce monsieur, mais il avait acheté tous les restos-routes, on ne pouvait pas manger autre chose que ce qu'il préparait. C'était franchement dégueulasse.
Et c'est lui qui a inspiré Tricatel dans L'aile ou la cuisse, hein, d'ailleurs. Hein.
Oui,
c'est
exactement.
Le personnage de Tricatel.
Ça sonne pareil, quoi.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Guillaume de Tonquédec ?
C'est des gens qui aiment bien manger, quoi. Qui aiment bien rire. Et qui aiment bien faire la fête, quoi, parler de façon gourmande. Donc c'est des amis, quoi, en fait. Pas forcément des gens connus, je ne sais pas quoi. C'est des gens qui partagent ces valeurs-là, qui sont très importantes.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné ?
Ah bah alors c'est le fameux saumon grillé à la rhubarbe et à la pomme.
Ça voilà, marche
avec
bien.
Un petit vin de cassis.
Eh oui, l'acidité.
Le paternel, il s'appelle ce vin.
Le paternel.
Ouais.
Et l'acidité de la rhubarbe et de la pomme, comme ça, Yves, qui viennent casser le gras du saumon.
Ouais, ça amène surtout beaucoup de fraîcheur. L'acidité est mal perçue, alors que l'acidité, c'est vraiment une saveur qui est très précise et qui met la bouche à envie.
Oui, elle remet de la neutralité aussi entre chaque bouchée.
Ah, c'est une phrase de Jean Carmet que vous me rappelez là, Yves, il disait quand il buvait un bon vin, mais ça va avec, il dit celui-là il fait du bien aux joues.
Génial. Ça fait du bien.
Ah, c'est beau,
génial.
C'est joli.
Jean Carmet.
Qu'est-ce qu'on aurait aimé le recevoir, évidemment.
Bah ouais.
Le mot de la fin, FIM, Guillaume de Tonquédec.
Le mot de la fin, plaisir.
Plaisir, ça nous va. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Vous êtes
un
très bon vivant et on partage le même chose, l'amour des bonnes choses, c'est le cas de le dire, aller au cinéma. Il rouvre à partir de lundi les cinémas. Les blagues de Toto, c'est à partir du 5 août.
Ouais.
Les restaurants ont rouvert aussi. Allons au restaurant, portons le masque aussi quand on se déplace dans le restaurant. Voilà, tout simplement, c'est ça. Vivons. Ouais. Merci à ma belle équipe de la table des bons vivants de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou, Julien Amat, Agnès Vaudin, Jean-Luc Arblade à la réalisation et Marion Sauveur. Merci Yves Candebord.
Merci.
Attention à vélo, Yves Candebord. Attention à vélo, Olivier Pouls aussi. Hein.
Non, mais moi, c'est plutôt attention avec le tire-bouchon.
Voilà, très bien. Et rendez-vous sur europe1.fr pour les podcasts et les recettes. Et on sera samedi avec un autre bon vivant. Pierre Perret sera des nôtres.
Parfait.
En attendant, faites la cuisine, le marché et le reste. Merci Guillaume de Tonquédec.
Merci à vous. Bon appétit.
Et bon week-end. À samedi, Justine.
À samedi prochain, Laurent. Pour le moment, votre programme continue hein, comme à son habitude, avec l'arrivée dans quelques instants de Fabienne Lemoyle pour votre journal de la mi-journée. Et puis à 15h, Isabelle Morizet reçoit Thomas Dutronc dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors passez un très bon samedi avec Europe 1. Il est midi 26.